Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Tournons-nous ce soir dans nos Bibles pour notre étude de la précieuse vérité de Dieu, au chapitre 3 de 2 Pierre. Nous nous rapprochons maintenant de la fin de cette grande épître. J'espère que nous pourrons faire cela ce soir. Mais je ne vais pas essayer de pousser trop fort, car la vérité ici est trop importante pour nous. 2 Pierre, chapitre 3, et nous examinerons la section du verset 11 au verset 18 sous le titre « Vivre en prévision du retour de Christ ». Depuis que nous avons tout au long de ce troisième chapitre traité le retour du Christ, nous nous sommes posé la question « Qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant que chrétiens que Jésus revienne ?» Pierre a parlé de l'arrivée du jour du Seigneur. Nous avons noté pour vous que suivre le jour du Seigneur est un autre grand jour, appelé le jour de Dieu, également au verset 18, appelé le jour de l'éternité. En tant que croyants, nous n'anticipons pas nécessairement le jour du Seigneur, c'est un jugement. Nous anticipons le jour de Dieu, c'est le jour éternel, le jour des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Nous anticipons joyeusement l'entrée dans la glorieuse création éternelle de Dieu. Nous aspirons à cela. Nous ne désirons pas le jour du Seigneur, le temps du jugement sévère, le temps de la damnation des pécheurs, mais nous aspirons à l'état éternel de la gloire, juste au jour de Dieu. Ce jour merveilleux, où Dieu est en tout. Ce terme, jour de Dieu, comme vous le notez, apparaît au verset 12 de ce texte. Déjà, bien que nous ne soyons pas encore rentrés dans le jour de Dieu, et ce ne sera qu'après le royaume millénaire, nous l'anticipons déjà. De plus, nous sommes déjà citoyens de cet état éternel. Notre citoyenneté, dit Paul, aux Philippiens, est au paradis. Nous sommes ceux qui recherchent une ville dont le constructeur et le créateur est Dieu. C'est la ville céleste, la nouvelle Jérusalem éternelle, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, étant sa dernière demeure. Ainsi nous vivons dans l'attente de cette gloire éternelle, ce jour éternel de Dieu. Le verset 11 dit alors, « Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Quelles sont les implications de l'univers entier dans un holocauste de feu, suivi par les nouveaux cieux et la nouvelle terre, le jour éternel de Dieu dans lequel vous habiterez? Si vous êtes citoyen de ce jour glorieux, de ce royaume éternel, de cet univers éternellement nouveau, quelle sorte de personne devriez-vous être? Nous remarquons que ce n'est pas une question, mais plutôt une exclamation, comme si elle devait dire « Quel genre de personne devrions-nous être? Dans quel genre d'excellence stupéfiante devrions-nous nous comporter et vivre? Puisque Jésus vient pour juger les impies, pour détruire l'univers maudit par le péché, et le remplacer par un tout nouveau univers, fait pour nous, dans lequel nous habiterons éternellement. Cela devrait avoir un impact puissant sur nos vies. Nous sommes citoyens de ce royaume éternel. Comment cela devrait-il nous affecter? Il le dit au verset 11, « La sainteté de votre conduite et votre piété. » La sainte conduite a à voir avec notre action. La piété a à voir avec notre attitude. Dans l'attitude et l'action, nous devons être séparés du péché, saints et pieux. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Comment cela se décompose-t-il? Quels en sont les éléments? Quels sont les éléments de ces attitudes pieuses et de telles conduites pieuses? Avec cela, nous nous entraînons dans le verset 12. Je vous l'ai dit la dernière fois, Pierre va nous donner une série de caractéristiques, d'éléments ou de composants qui correspondent au genre d'attitude, au genre d'action qui devrait nous caractériser. Voici une définition élargie de la conduite sainte et de la piété. La dernière fois, je vous l'ai dit. Tout d'abord, cela inclut l'attente. Versets 12 et 13. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments brasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Remarquez là au verset 12. Il dit que nous cherchons, nous nous hâtons. Au verset 13, encore une fois, nous cherchons un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nous devrions vivre alors dans l'anticipation ou l'attente. Nous avons abordé cela en détail la dernière fois. Passons au deuxième élément. Le deuxième élément de son instruction. Non seulement devons-nous être caractérisés par l'anticipation, mais laissez-moi vous donner un mot et ensuite l'expliquer. Nous devons être caractérisés par la pacification. C'est juste un autre mot pour la paix. Nous devons être pacifiques. Nous devrions être dans un état paisible. Veuillez noter le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix, être trouvés par lui en paix. Par conséquent, bien-aimés, puisque vous recherchez ces choses, quelles choses? Le jour de Dieu, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, l'état éternel, le royaume glorieux qui nous attendent en présence de Dieu pour toujours et à jamais, puisque nous recherchons ces choses. Au fait, le mot « bien-aimé » isole cela au seul chrétien et dit « puisque vous cherchez ces choses, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, avec toute leur gloire, vous devriez être diligent. » Une autre façon de dire cela est de faire tous les efforts possibles. Il met l'accent sur le devoir chrétien, il met l'accent sur la responsabilité chrétienne, faisant tout son possible pour être trouvé par lui dans la paix. Je dois faire une brève note sur le fait que vous soyez trouvé par lui. C'est un commentaire assez intéressant. Quand le Seigneur Jésus viendra, vous serez trouvé personnellement par lui. Je dois juste vous le rappeler. Il n'y aura rien de caché en ce jour-là. Il n'y aura rien de négligé ce jour-là. Tout sera mis en lumière le jour où le Seigneur Jésus viendra. Nous en sommes très conscients. Il est dit dans 1 Corinthiens 4 que lorsqu'il viendra, il mettra en lumière les choses secrètes dans les recoins les plus intimes du cœur humain. Quand il viendra, il mettra en lumière tout ce que nous avons fait dans nos vies, que ce soit bon ou sans valeur, dit 2 Corinthiens 5, et nous serons trouvés par lui. Cela souligne que c'est lui qui vient, et que c'est lui qui nous affrontera quand il viendra, puisque nous anticipons tout cela, quand il nous trouvera. Il remarquera notre diligence pour vivre en paix. Alors il nous trouvera effectivement en paix. Que veut-il dire par là? Que veut-il dire que dans le cas où il vient, et quand cela arrive, nous devrions être trouvés en paix? Que dit-il? Cela pourrait signifier la paix avec Dieu. Cela pourrait signifier qu'il nous trouverait dans une relation de paix avec Dieu, qui serait l'égale du salut, selon Romains 5 et Éphésiens 2. Mais là encore, nous sommes déjà chrétiens, appelés bien-aimés ici. Il écrit aux croyants. Donc, il ne semble pas qu'ils disent que vous avez besoin d'être sauvés. Il se peut qu'il se réfère à certains professeurs non sauvés de l'Église, qui épousent un salut qu'ils ne possèdent pas, et peut-être qu'il les pousse à être diligents pour que quand cela arrivera, vous serez véritablement sauvés. Mais je pense que ce n'est pas le sens premier, même s'il pourrait être secondaire. Il est également possible qu'il nous pousse à vivre en paix avec d'autres croyants, afin que, lorsque je viens et installe mon royaume glorieux, je puisse vous trouver vivants en paix, les uns avec les autres. La paix de l'amour chrétien, l'unité de l'esprit dans un lien de paix, comme nous l'entendons de l'apôtre Paul, paix avec les hommes. Mais je ne pense pas que ce soit mieux non plus, même si cela peut certainement être un élément. Je pense que ce qu'il dit ici, c'est que l'on vous trouve jouissant de la paix de Dieu, de la paix de l'esprit personnel, de la paix qui vient d'une forte foi au Seigneur. Dans Philippiens, chapitre 4, ces mots familiers méritent d'être rappelés. En tout par la prière et la supplication, avec action de grâce. Faites connaître vos demandes à Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je crois qu'il parle de ce genre de paix qui protège le cœur et l'esprit. Ce genre de paix qui nous libère de l'anxiété. C'est ce genre de paix qui nous libère de la peur. Ce genre de paix qui nous préserve de l'anxiété qu'au retour de Christ, il recouvre notre péché et notre honte. Ce genre de paix sans souci pour l'avenir. Ce genre de paix qui ne connaît aucune crainte concernant le jour du Seigneur, le jugement du Christ, les conditions du monde, ou autres, parce que nous jouissons de la paix de Dieu. Cela dit, l'apôtre Paul explique, comme je viens de vous lire, que c'est une paix qui transcende la compréhension humaine. Elle transcende la puissance intellectuelle humaine. Elle transcende la définition humaine et elle transcende l'explication humaine. Je pense que ce qui dit est « Je le veux parce que lorsque je viendrai, vous serez en paix totale, vivant sans peur. » Une autre façon de le dire, c'est la façon dont Paul l'a dit quand il a écrit à Timothée, et a parlé de ceux qui aiment son apparition, ceux qui aiment l'apparition du Christ, parce qu'ils n'ont aucune peur, ils n'ont aucune inquiétude. Cela signifie que vous avez un fort sentiment de l'assurance de votre salut. Cela signifie que vous avez un sens aigu de la réalité de votre foi chrétienne et de votre obéissance, afin de ne pas avoir honte à sa venue. Cela signifie que vous ne craignez pas d'être pris ou emporté par le jugement du jour du Seigneur, car vous savez que tout va bien entre vous et Dieu. Vous êtes tout à fait à l'aise avec l'anticipation de la fin du monde, et même si vous saviez que cela arriverait dans les prochaines 24 heures, vous pourriez vous reposer et dormir. Vous n'auriez pas peur. Vous n'auriez aucune anxiété. Je me demande si c'est le cas. Je me demande si vous saviez que Jésus viendrait demain soir, ce que vous feriez dans les prochaines 24 heures. Si vous pouviez vivre dans une paix, un calme et un confort complet, sachant que votre compte avec Dieu est réglé au moment même et étant certain que si le jour du Seigneur devait commencer dans 24 heures, que l'holocauste du jugement de Dieu se déchaînerait sur le monde, tout irait bien pour vous. Le vrai défi de la vie chrétienne n'est pas de voir si vous pouvez éliminer tous les problèmes inconfortables de votre vie. Le véritable défi de la vie chrétienne n'est pas de créer un monde parfait pour que vous soyez heureux, mais de vivre dans un monde déchu, comme une personne déchue et pécheresse, entourée de personnes déchues, au milieu de toute la manifestation de la malédiction, endurant toute la douleur et la paix parfaite que tout va bien entre vous et Dieu, et que ses desseins pour vous se dérouleront parfaitement comme révélés dans les Écritures. C'est la paix de l'assurance, c'est la paix de la sécurité, c'est la tranquillité d'un homme ou d'une femme qui savent que tout va bien avec Dieu et qui ne craignent aucune honte à l'apparition du Christ. Ceci, dit Paul dans Philippiens 4, gardera votre cœur et votre esprit. Si vous pensez à la venue du Christ et à l'état éternel, aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, et au plan éternel glorieux que Dieu a établi pour vous, si vous pensez à le voir face à face, et si vous pensez au jour où vous entrerez dans la gloire de sa présence, et vous y demeurerez pour toujours, alors vous devriez vous réjouir avec joie et anticipation, aimer son apparition, crier « Alors viens, Seigneur Jésus !» Vous devriez avoir une intrépidité dans votre cœur, parce que vous savez sans l'ombre d'un doute que tout va bien. 1 Jean 4, verset 17 dit « Tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Nous devons être rassurés, car nous savons que le jugement n'est pas pour nous. Ainsi, dit Pierre, alors que vous anticipez la venue de Jésus-Christ, vous devriez vivre dans l'anticipation, et vous devriez vivre dans un état de pacification, dans une paix parfaite. Troisièmement, nous appellerons purification une autre composante de la vie à la lumière du retour de Christ. Revenons au verset 14 à nouveau. Il dit « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensibles dans la paix. » Maintenant, c'est en contraste, je crois, avec les faux enseignants. Vous vous souvenez au chapitre 2, quand il a décrit les faux enseignants. Il a dit qu'ils étaient des tâches et des imperfections. Contrairement aux tâches et aux imperfections, ou plus graphiquement, aux croûtes et aux tâches de saleté, vous devez être impeccable, inoxydable et irréprochable. Ces deux termes parlent à la fois de caractère et de réputation. Ils parlent à la fois de ce que nous sommes en réalité et de ce que les gens pensent que nous sommes. Impeccable signifie mon caractère, ce que je suis vraiment. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de tâche dans ma vie. Ma réputation est irréprochable. Ce que les gens pensent que je suis et que je dois être impeccable, c'est pur en réalité et irréprochable. C'est pur par réputation. C'est ainsi que le Seigneur veut nous trouver, pur en réalité, pur de réputation, impeccable quant à notre caractère, irréprochable quant à notre réputation. Maintenant, il y a quatre possibilités dans ces mots et nous devons les traiter de manière réaliste. Laissez-moi vous donner les quatre possibilités. Il est possible que vous soyez impeccable, mais pas irréprochable dans un sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est possible que vous vivez une vie pure, pieuse et vertueuse. Mais aux yeux du monde, vous n'êtes pas irréprochable. c'est généralement parce que quelque part dans votre passé, il y a eu une tache grave dans votre vie qui a taché votre réputation à un tel degré que même si vous êtes maintenant impeccable, les gens se souviennent de la tâche. Ainsi, au moment de la venue du Christ, tout pourrait aller bien, et vous seriez impeccable. Mais il se peut que vous ne soyez pas irréprochable, car quelque part dans votre passé, vous avez apporté l'opprobre au témoignage du Christ, et vous portez le blâme pour cela. Il est possible d'être impeccable, mais pas irréprochable. Il est possible d'être irréprochable, mais pas impeccable. Il est possible que les gens ne connaissent pas l'entière vérité. Il est possible que si les gens pensent que vous êtes impeccable, mais que vous ne l'êtes pas, que si les gens pensent que vous êtes irréprochable, votre réputation est sans faille, mais la vérité est que vous n'êtes pas impeccable. Nous disons donc qu'il y en a qui sont impeccables et non irréprochables. Il y en a qui sont irréprochables, mais pas impeccables. Il y a une troisième possibilité. Quand Jésus vient, vous êtes impeccable de caractère autant que possible, par sa grâce, et votre réputation est irréprochable. Votre vie et votre réputation sont intactes, donc. Votre vie et votre réputation sont sans tache. Il n'y a jamais eu une tache avec la capacité de vivre dans votre vie. Il est quatrièmement possible que vous ne soyez ni impeccable ni irréprochable. Par là, je veux dire que vous avez des tâches et que vous avez été blâmé. Vous pouvez être à la fois impeccable et irréprochable. Vous pouvez être ni impeccable ni irréprochable. Dans ce cas, la vie et la réputation sont ternies et entachées. Il est donc possible que vous soyez, comme nous l'avons noté, impeccable, mais pas irréprochable. Que vous avez été rétabli, mais le scandale de votre vie reste dans l'esprit de certaines personnes. Vous pouvez être irréprochable et non impeccable. C'est être hypocrite. Vous pouvez être à la fois impeccable et irréprochable. C'est être saint. Ou vous ne pouvez être ni impeccable ni irréprochable. C'est être un pécheur. Je viens de dessiner cela pour vous, afin que vous puissiez voir les implications de ce qui est, à première vue, une déclaration plutôt simple. Nous devons nous occuper des péchés dans nos vies. C'est le but de vivre une vie sainte. Quand le Seigneur vient, il veut que nous soyons purs. Comment pouvez-vous être ainsi? Sachez que vous devez discerner votre péché, détester votre péché, confesser votre péché, désirer la vie sainte, vous abstenir des situations de tentation, être fidèle dans les moyens de la grâce, les moyens spirituels de l'étude biblique, de la prière, de l'adoration, afin que vous mainteniez une vie pure. Le Seigneur dit, « C'est ainsi que je veux que vous viviez jusqu'à ce que je vienne. » Cela est cohérent avec ce que vous prévoyez dans l'éternité. Si je suis destiné à la pureté éternelle, si je suis destiné à la gloire éternelle, je dois chercher à vivre ainsi maintenant. Alors Pierre dit, « Alors que nous anticipons la venue du Christ, voici le genre de personne que nous devrions être, caractérisé par l'anticipation, la pacification, la purification. » Le verset 15 nous amène à une quatrième pensée. C'est merveilleux. Nous devons être caractérisés par l'évangélisation. Au moment où nous attendons ce grand état glorieux et éternel, il dit, verset 15, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » En d'autres termes, nous devons être occupés à utiliser le temps, l'énergie, les dons, la vie que nous avons dans le but du salut. Le Seigneur attend pour sauver. Revenez au verset 9. Certains des critiques disaient, « Le Seigneur ne vient pas. Il a dit qu'il viendrait, mais il ne viendra jamais. Regardez combien de temps cela fait, et il n'est pas venu. » Ainsi Pierre dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, comme certains hommes pourraient penser de lui, qu'il est ce qu'il veut dire. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il attend patiemment. » De retour au verset 8, il a dit, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Donc, il ne considère pas le temps comme vous le faites de toute façon. Il est très patient, très miséricordieux. Dieu souhaite que personne ne périsse. Il n'a aucun plaisir à la mort des méchants. Dieu notre Sauveur, 1 Timothée 2:4, veut que tous les hommes soient sauvés. Il tarde et s'attarde, attend et attend, et souhaite que ceux qui ne sont pas encore repentis viennent à la repentance. Quand Dieu dit à Israël, « Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Ézéchiel 18:31. Il a souligné sa compassion, et il a souligné sa miséricorde. Vous voyez l'image de cette magnifique patience miséricordieuse dans la belle histoire du Fils prodigue, dans Luc 15, le Fils vivant dans le monde, dans une émeute, dans l'immoralité, en gaspillant son privilège évangélique et son opportunité, et son Père à la maison est patient, aimable, compatissant, attendant et attendant que le Fils rentre à la maison. Ainsi en est-il de Dieu le Père. Donc, ce que dit Pierre, c'est qu'en ce temps de patience de Dieu, reconnaissez au verset 15 que la patience de notre Seigneur est dans le but du salut. Revenons à cette même pensée que nous avons notée il y a quelques semaines. Le fait d'attendre la venue du Christ ne nous donne pas le droit de rester assis et de ne rien faire. Nous ne devons pas, comme je l'ai dit précédemment, mettre notre pyjama et nous asseoir sur le toit tant qu'il n'arrive pas. Nous devons être impliqués dans le ministère de la réconciliation. En fait, dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul a vraiment articulé ce qui devrait être le battement de cœur passionné de chaque croyant qui attend la venue du Christ. C'est ce qu'il a dit. Connaissant donc la terreur du Seigneur, ou la crainte du Seigneur, nous persuadons les hommes. En d'autres termes, quand je pense au jour de Dieu, qui est une bénédiction pour moi, je dois aussi penser au jour du Seigneur, qui maudit pour eux. Il y a une illustration graphique de cette même attitude qui vient du cœur et de la plume de l'apôtre Jean. Alors que l'apôtre Jean envisageait le jugement dans l'Apocalypse, chapitre 10, l'ange lui a apporté un livre, et il l'a donné à Jean et il a dit « Prends-le et avale-le ». Dans le symbolisme, Jean l'a mangé. Il a dit « Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel ». Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Qu'est-ce que c'était? Le petit livre représente la vérité de Dieu sur le jugement final, qui est doux amer. Elle est d'une part douce, parce qu'elle nous fait entrer dans le jour de Dieu. Elle est d'autre part amère, parce que cela signifie la damnation du monde incrédule. Le vrai chrétien, qui attend au temps de la patience de Dieu, voit que le but de la patience de Dieu est de s'étendre dans le salut aux pécheurs. Avec quelle attitude attendons-nous donc le jour de Dieu, l'éternité glorieuse que Dieu a préparée pour nous? Avec quelle attitude attendons-nous cette gloire finale? Avec anticipation, à la recherche, impatient que cela vienne et vienne bientôt? Avec pacification, c'est demeurer en paix parfaite parce que tout va bien avec le Seigneur. Le compte est réglé pour le moment, afin que s'il venait, il n'y ait pas de honte, il n'y a pas de crainte pour que l'assurance garde nos cœurs. La purification, vivre dans la vertu, la pureté de la vie, à la fois dans le caractère et la réputation, puis l'évangélisation, en s'assurant au fur et à mesure que la patience de Dieu persiste, notre zèle à conduire les hommes au salut nous porte à travers le temps de sa patience. Numéro 5. La discrimination. Cela doit aussi nous caractériser. Je veux que vous soyez très prudents lorsque nous parcourons cette section, car c'est un texte extrêmement important. Cela pourrait nous conduire sur de nombreux sujets différents. Mais je veux éviter cela, car ce sont des sujets, soit que nous avons vus dans le passé, ou que nous regarderons à l'avenir. Je veux rester fidèle à la pensée de Pierre. Verset 15. Non seulement devons-nous, puisque nous recherchons ces choses, rester diligents en considérant que la patience du Seigneur est le salut, mais nous suivons ce qu'il dit. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimé, qui êtes averti, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Maintenant, en première lecture, vous vous êtes perdu, je sais, mais je veux vous ramener et vous trouver quelque part là-dedans, parce que c'est absolument crucial. Comme, là au verset 15, au milieu, je crois s'introduit une nouvelle idée. Il dit, comme, aussi, et je pense vraiment que vous pourriez commencer une nouvelle phrase, ici, et faire la transition avec un tout nouveau concept. Il dit, comme notre bien-aimé frère Paul, puis il se lance pour discuter de quelque chose au sujet de Paul et de l'avertissement de Paul concernant le faux enseignement. Puis il dit, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. C'est un appel à la discrimination. Il dit, alors que vous vivez dans l'attente de la venue du jour de Dieu, vous devez vous rendre compte qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont essayer de vous embrouiller à ce sujet. Vous devez faire preuve de bon sens. Notre frère bien-aimé Paul a mis en garde à ce sujet, tout comme je vous ai prévenu. C'est le flux général. Examinons maintenant les différentes parties de cela séparément. Il appelle Paul, notre frère bien-aimé Paul. En réalité, Paul était un autre apôtre. Pierre utilise une terminologie gracieuse pour décrire Paul. C'est vraiment merveilleux. Ils étaient ensemble au conseil de Jérusalem. Vous avez lu Acte 15. Pierre et Paul étaient là ensemble. Ils avaient quelque chose en commun. Un homme, le saviez-vous? Ils partageaient le même partenaire ministériel. Tous deux avaient le même assistant. Un homme du nom de Silas. Comparez 1 Pierre 5:12 avec Acte 15:40. Ils ont donc partagé un ministère ensemble, au conseil de Jérusalem. Ils ont partagé la vie d'un homme ensemble, à savoir Silas. Certes, ils aimaient le même Seigneur et croyaient aux mêmes vérités, mais vous souvenez-vous qu'au début de la vie de Paul, il y a eu un grand conflit entre Paul et Pierre. Si vous revenez au chapitre 2 de Galates, juste un instant, je vous en parlerai rapidement. Galates, chapitre 2. Paul était à Antioche. Il était allé là-bas pour être l'instrument du Seigneur, fondant une église. L'église de Jérusalem avait envoyé des personnes là-bas pour établir une église à Antioche. Depuis Antioche, vous vous souvenez, ils ont commencé à lancer le ministère dans le monde, et Paul et Barnabas ont été envoyés de cette ville. Mais quand Paul était à Antioche, Pierre est venu. Pierre était à Antioche et avait fait une chose terrible. Il avait en effet ramené tous les croyants dans le légalisme. C'était vraiment un péché très manifeste de la part de Pierre. Au verset 11 de Galates 2, Paul dit « Je lui résistais en face. Je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. » Il poursuit en décrivant la venue de certains hommes envoyés par Jacques. Il mangeait avec les païens, et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Il disait en fait, « Pourquoi êtes-vous libre de manger avec les païens, avant que ces juifs n'arrivent, mais maintenant vous vous montrez hypocrite ?» Il lui a résisté publiquement. Maintenant, vous devez vous rappeler que Pierre était le premier dirigeant de l'Église, le principal porte-parole. Sans aucun doute, vu le genre d'homme qu'il était, il n'aimait pas l'idée d'être publiquement déshonoré. N'est-il pas merveilleux, cependant, que lorsque la vérité prévaut, et que les deux hommes reconnaissent la vérité, ils puissent traiter le péché comme un péché, et ne pas le prendre personnellement? Pierre ne l'a manifestement pas pris personnellement. Pierre savait que c'était un péché. Pierre a vu cela comme un péché. Je suis sûr que Pierre a réalisé la vraie spiritualité de Paul et l'a aimé pour cela. Et donc, ici, il dit « Notre bien-aimé frère Paul ». Il y a bien plus dans ces mots que ce que l'on voit. Ainsi, il dit « Comme notre bien-aimé frère Paul, selon la sagesse qui lui a été donnée ». C'est une déclaration merveilleuse. Fritz Rienecker, l'appel impassif divin, la sagesse que Dieu lui a donnée de vous écrire. Maintenant, il se réfère à une lettre de Paul. Il attend de Paul un soutien pour ce prochain point qu'il souhaite faire valoir au sujet de la discrimination. Il dit « Laissez-moi vous rappeler Paul et ce que Dieu lui a donné en guise de sagesse. Il vous l'avait même écrit. De quoi parle-t-il? Qu'est-ce que c'est? Était-ce une lettre? Il ne dit pas que c'était une lettre. Il ne dit pas si c'était une lettre spéciale juste pour eux. Nous ne savons même pas s'il s'agissait d'un groupe facilement identifiable. Il dit simplement « Paul, selon la sagesse que Dieu lui a donnée, vous a écrit. » Puis il ajoute « Comme aussi dans toutes les lettres. » Dans toutes les lettres. De quoi parle-t-il ici? A-t-il une lettre en tête? S'il le fait, nous n'avons aucun moyen de le savoir. Voyons si je peux vous donner un avis, d'accord? C'est une opinion assez forte. Je ne peux pas être dogmatique. 2 Pierre a été écrit au même groupe de chrétiens que 1 Pierre. Vous dites, comment le savez-vous? Regardez le chapitre 3, verset 1. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Ce n'est pas trop difficile, n'est-ce pas? Alors à qui Pierre a-t-il écrit? Revenons à 1 Pierre 1 et découvrons-le. Il est écrit à ceux qui résident en tant qu'étrangers, dispersés à travers le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont parmi les choisis. Il y a des chrétiens partout dans cette région. Donc, nous ne pouvons pas être très précis sur le groupe qui a reçu la lettre. Il me semble qu'elle a été destinée à beaucoup de personnes. Donc, peu importe où 1 Pierre est allé, quel que soit le groupe, 2 Pierre aussi, tous ces endroits mentionnés dans 1 Pierre 1.1, Pont, Galatie, Cappadoce, Asie et Bithynie, sont de cette région d'Asie mineure. La région d'Asie mineure était la région à laquelle Paul a écrit de nombreuses lettres, Galates, Éphésiens, qui est une lettre circulaire, qui est destinée à tous, aux Colossiens aussi, par exemple. Nous savons aussi que les lettres écrites aux Galates, aux Éphésiens, aux Colossiens, et comme je l'ai dit, la lettre adressée à l'église d'Éphèse, étaient des lettres circulaires, qui allaient à beaucoup d'endroits différents. Nous savons que ces lettres ont été partagées avec d'autres églises. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Dans Colossiens, chapitre 4, au verset 16, « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Ils ont échangé les lettres, ils ont partagé les lettres, ils ont fait circuler les lettres, et ils ont commencé, en fait, des collections de ces lettres, en les partageant avec d'autres églises. » Dans 1 Thessaloniciens 5, 27, écrivant aux Thessaloniciens, Paul dit « Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. Je ne sais donc vraiment pas si nous pouvons dire qu'il s'agit d'une lettre spécifique. Mais ce qu'il dit, c'est « Vous connaissez la sagesse de Dieu donnée à notre bien-aimé frère Paul, qu'il vous a écrite comme dans toutes les lettres. Nous ne savons pas s'il fait simplement référence à ses épîtres, ou à l'une de ses épîtres, ou à une autre lettre spécifique qui n'a pas été inspirée. Mais j'aime le fait qu'au verset 16, il dit « C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres ». Je suppose donc qu'il fait simplement référence à l'écriture de Paul. Il est possible que Paul ait écrit une lettre spécifique à ce groupe, mais c'est un groupe tellement difficile à identifier qu'il serait difficile de découvrir quelle lettre. Il est peut-être préférable de dire qu'il ne connaissait que l'écriture de Paul. À quoi cela sert? Il dit que Paul vous a écrit sur la seconde venue. Paul vous a écrit sur les gloires du ciel. Paul vous a écrit sur le jour de Dieu, s'il n'utilise pas le terme, certainement pour parler d'éternité. 1 et 2 Thessaloniciens, par exemple, sont les premiers écrits de Paul. Ils traitent largement de la prophétie relative à la venue du Seigneur Jésus. Le deuxième exemple de lettre serait Romains, Galates, 1 et 2 Corinthiens. Tous sont des passages anticipant la venue de Jésus-Christ, des passages décrivant le plan futur de Dieu pour Israël et l'Église. Ensuite, la troisième vague de lettres serait connue sous le nom d'épîtres de prison. Éphésiens, Colossiens, Philippiens et Philémon. Encore une fois, il y a des déclarations sur l'avenir, sur Jésus en tant que chef de toutes choses, et comment toutes choses se dirigent vers un point culminant, et une conclusion glorieuse en lui, la réconciliation finale de toutes choses. Ensuite, la dernière vague, la quatrième vague de lettres, serait les épîtres pastorales. 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. Et, même si ces choses anticipent la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi Pierre dit, comme Paul l'a écrit dans toutes ses lettres, y compris celles que vous avez, ou celles que vous avez au sujet du retour de Christ, au sujet des gloires du ciel et de l'état éternel. En d'autres termes, je compte sur Paul pour un petit soutien. Ce que je dis a été confirmé par lui. Il a écrit sur le jour du Seigneur, il a écrit sur l'éternité, il a écrit sur le fait que Dieu tiendra sa promesse, jugera les méchants, changera l'univers, apportera la justice éternelle, glorieuse, ultime. Pierre n'a pas fini. Il va approfondir cela. Suivez ceci. C'est très intéressant au verset 16, dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre. Maintenant, dans certains écrits de Paul sur l'avenir, c'est difficile de comprendre. Le verbe signifie en fait « difficile à interpréter ». Veuillez noter ceci, pas impossible. M'avez-vous entendu? Certaines personnes disent « Oh, nous ne pouvons tout simplement pas savoir. Je ne revendique aucune vue. Je ne pense tout simplement pas que nous puissions le savoir. » Il ne dit pas que c'est impossible. Il dit que c'est difficile. Certains des passages de Paul sur l'enlèvement de l'Église, le temps de la tribulation, la venue de l'homme du péché, le retour de Christ en jugement, le grand âge que nous appelons le millénium, le ciel éternel et glorieux final. Certaines choses de ce que Paul dit à ce sujet sont dures à comprendre, littéralement difficiles à interpréter. Vous dites, cela signifie-t-il que Pierre ne l'a pas compris? Non, je suis sûr que Pierre l'a compris autant que possible. Il ne dit pas qu'il ne l'a pas compris. Suivez ceci. Il a simplement dit que c'était difficile à comprendre, difficile à interpréter, de sorte que le non-enseigné et l'instable le déforment. Je vous promets que Pierre ne s'est pas mis dans cette catégorie avec l'instruit et l'instable. Il dit que c'est simplement difficile. Par conséquent, les gens peuvent être facilement trompés. Je vais vous dire, il y a une prolifération sans fin de documents écrits sur la vérité prophétique concernant l'avenir. Cela sort tout le temps. Bien sûr, pour les instables, les non-instruits, il peut les tromper, en particulier quand il est perpétré par de faux enseignants sans scrupules. Maintenant, ils ne font pas cela uniquement avec la prophétie. Il dit que le non-enseigné et l'instable déforment, comme ils le font aussi pour le reste des Écritures. Ils le font avec toute la Bible. Non-enseigné signifie qu'ils manquent d'informations. Instable signifie qu'ils hésitent donc dans leur caractère spirituel. Le non-instruit et l'instable sont victimes de l'erreur. Déformé littéralement, s'il était utilisé dans un sens physique, signifierait mettre un corps sur un support de torture, et une clé à ce corps. Les personnes, pour ainsi dire, prennent la vérité, la mettent sur un support et la déchirent. Ils la tordent et torturent la vérité. Ce sont des mercenaires qui escroquent les gens. Le manque de clarté simple sur toutes les questions prophétiques permet à l'ignorant et à l'immoral de confondre la vérité. Ils ne le font pas uniquement avec la prophétie, dit-il. Ils le font également avec tout le reste des Écritures. Maintenant, vous vous rappelez, n'est-ce pas, au verset 3, que la raison pour laquelle les faux enseignants nient la seconde venue n'est pas arrivée parce qu'ils ont découvert une grande vérité prophétique. C'est parce qu'ils marchent selon leur propre convoitise et qu'ils veulent un avenir qui ne les rend pas responsables de leur immoralité. Ainsi, en plus de leur déformation, de leur perversion, de leur déformation de l'enseignement du jugement futur, de la gloire future des saints, et de tout ce qui est impliqué dans la venue du Christ, avec la déformation qui, vous pouvez en être sûr, déforme l'enseignement du jugement lui-même, sur la loi de Dieu, sur la justice, sur la sainteté, sur la repentance, sur le salut par la grâce, par la foi. Ils seront antinomiques, donc ils déforment toutes sortes de choses. En passant, en note de bas de page, avez-vous remarqué ce qu'il dit qu'ils font avec le reste des Écritures? Cela signifie qu'il appelle ce que Paul a écrit les Écritures. Paul a écrit dans toutes ses lettres, dit-il, disant que ces sujets de thèmes prophétiques, qu'ils sont durs, difficiles à interpréter. Donc les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures. C'est la déclaration la plus claire sur les pages de l'Écriture pour affirmer que les écrits de Paul sont des Écritures. C'est le témoignage de Pierre que Paul écrit dans les Écritures. Les faux enseignants déforment tout. La fin du verset 16, pour leur propre ruine. Revenez au chapitre 2 pendant un moment, c'est assez clair. La fin du verset 1 dit que les faux prophètes et les faux enseignants se provoquent. Une destruction rapide. Le verset 3 dit, « Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Ils seront détruits avec leurs créatures, ces créatures animales instinctives qui ne raisonnent pas. » Chapitre 3, verset 7. Il y a, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies, il y a quatre fois le mot « destruction », les quatre fois se référant aux faux enseignants, aux faux prophètes et à ceux qui les suivent. Dans le verset 10 de Jude, il est dit, « Ceux qu'ils savent par instinct, comme des animaux sans raison, ne sert qu'à les corrompre. » Colombe. Le verset 13 dit, « Auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. » Maintenant, écoutez attentivement. Il dit que les gens qui déforment les enseignements de Paul sont conduits à la destruction éternelle. Laissez-moi vous donner une pensée conséquente. Si cela est vrai, alors les écrits de Paul doivent être l'Écriture, parce que si vous les déformez, elles mènent à la damnation éternelle. Ce doit être l'Écriture si une déformation de celle-ci mène à la damnation éternelle. Cela ressemble à Apocalypse 22, 18 et 19, n'est-ce pas? Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose. Maintenant, regardons de plus près. Le mot, donc, vient au verset 17. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, sachant quoi ? Sachant qu'il y aura de faux enseignants qui viendront déformer les Écritures, et qui conduiront donc les gens à leur propre damnation. Puisque vous le savez d'avance, puisque vous avez cette information, soyez sur vos gardes contre les faux enseignants, contre leur hérésie destructrice. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu, comme un homme éprouvé. Soyez sur vos gardes. Pourquoi ? De peur qu'entraîné par l'égarement des impies. Il y a un autre titre pour les faux enseignants. Leurs victimes sont les non-instruits et les instables, qui déforment les Écritures. Mais ceux qui mènent la distorsion sont les hommes sans principe, les faux enseignants. Sans principe, c'est être sans loi. Il dit qu'il ne faut pas vous laisser séduire par eux. C'est le même mot utilisé dans Galates 2.13, quand il dit que Barnabas était entraîné par l'hypocrisie. Ne vous laissez pas emporter par leur erreur. Ces hommes sans principe, ces hommes sans loi, ces hommes qui vivent en dehors de la loi de Dieu, et sans la loi de Dieu. Écoutez, chaque fois que vous traînez ou écoutez de faux enseignants anarchiques qui déforment les Écritures, vous courez le risque d'être induit en erreur. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans une église où quelqu'un déforme les Écritures sans courir le risque d'être induit en erreur. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans un collège, qu'on appelle chrétien ou non, et écouter les gens déformer les Écritures sans courir le risque d'être induit en erreur. Vous ne pouvez pas aller à un séminaire pour sa réputation académique, rester là assis et entendre l'erreur tout le temps, sans courir le risque d'être égaré par des hommes sans principe et sans loi. Seule la vérité sanctifie, seule la vérité apporte la justice. Vous devez alors faire preuve de discernement. Fin du verset 17. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, tomber littéralement hors d'eux. Vous pourriez être séduit et tomber de votre propre fermeté. Qu'est-ce que le mot fermeté ? La fermeté, c'est le contraire d'instable. Pierre a en tête une position ferme sur la vérité. Souvenez-vous quand Paul a écrit à Timothée. À la fin du premier chapitre, il a parlé d'Hyménée et d'Alexandre, qui avaient conduit des personnes au naufrage, en ce qui concerne leur foi, tombant par manque de fermeté. Il ne dit pas que vous perdez votre salut, il est éternel. Mais vous tombez de votre stabilité, vous tombez de votre constance en ce qui concerne la doctrine, la vérité, la conviction, la confiance. Alors Pierre dit, regardez, vivre à la lumière de notre destinée éternelle, appel à la discrimination. Paul a écrit toutes ces choses sur la seconde venue. De faux enseignants appelés hommes sans principe viendront et prendront ces choses qui sont difficiles à interpréter, les tordront, les déformeront, et avec cette torsion et cette déformation, égareront les gens qui déformeront également d'autres parties de l'Écriture et tomberont de leur constance dans la confusion, la contradiction, le doute et le chaos. Ne laissez pas cela arriver. Vous vivez à la lumière de votre destinée éternelle, avec discrimination. Gardez, dit-il, gardez-vous-même. Soyez sur vos gardes. La seule façon de le faire est d'étudier les Écritures et de vous montrer approuvé. Ainsi, il ajoute la discrimination à l'évangélisation. La purification, la pacification et l'anticipation. Rapidement, il en reste deux dans le verset 18. C'est très simple. Mûrissement. Verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il dit, pendant que vous attendez, pendant que vous anticipez votre gloire éternelle, grandissez, mûrissez. Paul avait dit, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens 4.14. Pierre avait dit cela dans 1 Pierre 2.2. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc ici, il nous rappelle simplement que, puisque nous allons passer notre éternité avec le Seigneur Jésus, nous devons grandir dans la grâce et la connaissance. Le verbe oxano signifie avancer dans la sphère de la grâce. À travers la connaissance, la sphère de la grâce à travers la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Comment pouvons-nous acquérir ces connaissances ? Apprendre à mieux le connaître par l'étude de la parole, par une communion intime avec lui. Tout cela signifie une connaissance de plus en plus profonde du Christ. Paul s'est écrié, « Pour que je le connaisse, la grâce est la sphère de notre croissance. La connaissance est la composante de cette croissance. » dans la sphère de la grâce où Dieu pardonne nos péchés et néglige nos faiblesses. Nous nous nourrissons de la parole de Dieu et de la communion avec le Christ vivant, et grandissons ainsi dans notre connaissance de lui, dans la sphère de la grâce qui traite de nos échecs et de nos insuffisances. C'est une garantie essentielle. Si je veux être sur mes gardes, je vais devoir augmenter ma connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Veuillez noter qu'il est à la fois Seigneur et Sauveur, pas seulement Sauveur et pas seulement Seigneur. C'est une garantie essentielle. Si je veux vivre à la lumière de ma gloire éternelle, alors à ce moment particulier, alors que je vis ma vie dans ce monde, je poursuis dans la sphère de la compassion et de la miséricorde de Dieu, grâce à une connaissance de plus en plus profonde de la plénitude de la personne du Christ, à la fois dans sa seigneurie et dans son œuvre salvifique. C'est la seule façon que je puisse éviter d'être induit en erreur. Il y a un dernier mot alors que Pierre termine, et c'est l'adoration. Il dit « À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Cela appelle simplement à l'adoration. Donnez-lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Paul avait dit « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous devons vivre pour sa gloire. » Paul avait écrit aux Éphésiens et leur avait dit que Dieu devrait obtenir la gloire. Christ devrait obtenir la gloire à travers l'Église. Cela signifie à travers vous. Nous devons être la louange de sa gloire. Il y a une vérité merveilleuse ici, cependant. Ce n'est pas quelque chose à laquelle vous pouvez résister à commenter. À lui soit la gloire. Qui est-il? Notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, est évidemment le modificateur. C'est assez important. La gloire appartient à Dieu et à Dieu seul. L'Ancien Testament affirme que Dieu a dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». Ici, le Saint-Esprit dit « Donnez gloire à Jésus-Christ ». Qu'est-ce que cela nous dit? Une grande affirmation de la divinité de Jésus-Christ, son égalité avec Dieu. Dans Jean chapitre 5, au verset 23, cette déclaration si importante. « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ils sont égaux. » Romains 11, 36 est une grande doxologie donnée à Dieu. Jude 25, une grande doxologie donnée à Dieu. 2 Pierre 3, 18, une grande doxologie. Doxa est le mot pour gloire, une grande doxologie donnée au Seigneur Jésus-Christ. Nous concluons donc que Dieu et Christ, tous deux divinités, méritent notre louange. Le Christ doit être l'égal de Dieu, digne de gloire. Comment est-ce que je vis? Comment vivre à la lumière d'un jour entrant dans l'éternité et vivant pour toujours au jour de Dieu, le jour de l'éternité, le nouveau ciel et la nouvelle terre, dans lesquels la justice habite éternellement? Comment vivre à la lumière de cela dans cette vie? Pierre dit quel genre de personne vous devriez être, à quel niveau d'excellence vous devriez vivre. Il répond à sa propre question. Vous devriez vivre dans l'anticipation. Vous devez vivre dans la pacification, c'est-à-dire dans une paix parfaite, car vous êtes assuré que le jour du Seigneur vous dépassera comme l'a fait l'ange de la mort, et que vous entrerez dans le jour de Dieu. Vous devriez vivre dans la purification, à la fois impeccable et irréprochable. Vous devez vivre dans l'évangélisation, en réalisant que pour utiliser le temps dont vous disposez, il est essentiel de prêcher l'évangile aux perdus. Vous devriez vivre avec une certaine méfiance. C'est être très prudent, et sur ses gardes, de peur que quelqu'un venant et déformant la vérité divine ne vous éloigne de votre fermeté. Vous devriez vivre dans la maturation, en grandissant continuellement dans la connaissance du Christ, dans la sphère de la grâce. Vous devriez vivre dans l'adoration, vivre une doxologie, pour ainsi dire, être un instrument de louange au Dieu de gloire, le Christ de gloire qui a planifié le jour de l'éternité pour vous. C'est ainsi que nous vivons à la lumière de notre glorieux avenir. Inclinons-nous ensemble dans la prière. Quel genre de personnes devrions-nous être? Père, nous le savons. Apporte ces grandes vérités dans nos cœurs, pour l'amour du Christ et de sa gloire. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.